L'épître de Jacques, premier chapitre, à partir du 22e verset, il est dit « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. » Nous allons prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs et qu'il puisse utiliser aussi son serviteur. Seigneur notre Dieu, tu nous as conviés ce matin dans ta présence pour que non seulement nous puissions te parler, mais que à travers ta parole, nous puissions également t'écouter. Dispose nos cœurs et laisse que le messager puisse communiquer ta parole conformément à ta volonté. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde d'être associés à diriger la méditation de ce matin. Nous disons merci aux responsables de cette église pour nous avoir adressé cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez que je puisse vous transmettre les salutations et les remerciements de la chapelle de Gomano, votre chapelle. J'ai parlé avec les consistoires hier, ils m'ont demandé de les transmettre. Je crois que vous les recevez. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans deux textes. Le premier texte, c'est celui de Lévitique, chapitre 11, verset 44 jusqu'au verset 45e. Et le deuxième texte, c'est la première épître de Pierre, chapitre 1er, du 13e au 16e verset. Nous allons commencer par le premier texte, Lévitique, chapitre 11. Je vais conduire la lecture dans le nom du Seigneur. Amen. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi saignez le rein de votre attendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est la parole du Seigneur que nous pouvons acclamer. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce dimanche est consacré à l'introduction au troisième module du discipulat au sein de cette paroisse. Et personne n'ignore l'objectif principal du programme de discipulat en exécution dans la CBK depuis 2020, qui est d'être disciple et faire des disciples. Vous connaissez que nous sommes les disciples du Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous disons que ces disciples, à guise de rappel, c'est toute personne qui s'impose une certaine discipline pour suivre la doctrine, soit l'enseignement de son maître, qui est Jésus-Christ lui-même.
Donc les disciples, c'est cette personne-là qui a la certitude de son salut et qui vit selon la parole de Dieu à la mettant en pratique au quotidien. C'est une personne qui mène une vie de sanctification. Voilà pourquoi même le troisième module porte le thème du vrai disciple et la vie de sainteté. Le vrai disciple et la vie de sainteté, c'est le titre que porte le troisième module que nous commençons aujourd'hui au sein de cette église. Et ce matin, le thème que nous voulons aborder est intitulé « Les disciples authentiques s'exercent à la vie de sainteté ». Le disciple authentique s'exerce à la vie de sainteté, c'est-à-dire le vrai disciple s'exerce à la vie de sainteté. Et quand nous parlons du vrai disciple, c'est qu'il y a aussi des faux disciples ou des pseudo-disciples. Ces derniers, eux, peuvent s'exercer à la vie des péchés. Il n'y a pas de problème pour eux, tandis que pour le vrai disciple, il faudrait que ceux-ci s'exercent à la vie de sainteté. Alors, pendant cette méditation, nous voulons expliquer brièvement le fondement biblique de la sainteté et nous allons démontrer comment et pourquoi les disciples authentiques doivent-ils s'exercer à cette vie de sainteté. Donc, notre message comporte deux parties, cette définition et démontrer pourquoi et comment les disciples authentiques doivent s'exercer à cette vie de sainteté. S'agissant du premier point, nous allons dire que la sainteté, c'est la qualité de ce qui est saint, c'est-à-dire ce qui est pur. C'est aussi la qualité d'une personne sainte qui recherche la perfection morale ou religieuse. La sainteté est parfois synonyme à la perfection, à la vertu ou alors à la piété. Et la sanctification est relative à la sainteté et désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. Alors, s'agissant de son fondement biblique, dans la Bible, la sainteté, c'est une perfection absolue attribuée à Dieu. Et dans la Bible, nous connaissons que toute sainteté vient de Dieu, toute sainteté procède de Dieu lui-même, et donc Dieu, il est saint par excellence et par définition. Et la sainteté désigne aussi une personne qui recherche la perfection morale aux yeux de Dieu ou qui a déjà été touchée par la grâce de Dieu lui-même. Ainsi, les personnes qui appartiennent spécialement à Dieu sont dites saintes ou consacrées. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont mises à part pour Dieu, qui appartiennent spécialement à Dieu et qui sont dites saintes ou consacrées parce que le Seigneur les a appelées pour exercer un service quelconque. Nous pouvons citer en Israël, par exemple, le premier-né, parce que ce premier-né sont des personnes qui sont consacrées à Dieu. Et si vous lisez, en fait, dans la Bible, dans Exode, chapitre 13, verset 2, la Bible dit que tous les premiers-nés seront consacrés au Seigneur. Et nous voyons aussi les prêtres et les prophètes qui sont consacrés à Dieu. Toujours là, nous sommes en Israël. Mais aussi, dans une perspective plus large, tout Israël est considéré comme un peuple de Yahweh. Sans oublier tous les croyants dans le monde qui acceptent de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, à bref, Dieu sanctifie en Jésus-Christ toutes les personnes qui l'attirent vers lui pour lui appartenir. Alors, je voudrais rapidement répondre à la question de savoir si ce texte s'adressait à qui en premier lieu. Parce que nous voudrions bien l'analyser après avoir compris si l'auteur de Pierre était en train de s'adresser à quel type de personne. À qui s'adressait ce texte? Quand vous lisez le premier verset et le deuxième verset, la Bible rapporte ce qui suit. Pierre, apôtres de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Alors, quand nous lisons ces deux versets, il faut souligner que le premier destinataire de cette lettre, ce sont des étrangers élus de la dispersion. Et les régions qui sont citées ici, en fait, représentent l'Asie mineure à l'époque. Ces personnes n'étaient pas seulement des Juifs, mais aussi des païens qui étaient convertis à l'Évangile, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus, qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Enfin, les étrangers et dispersés sont ici une race élue, soit un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'il annonce les vertus de Dieu qui les a appelés des ténèbres à la lumière. Et cela vous trouvez dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Et donc ici, Pierre s'adresse à des personnes qui sont sanctifiées par Dieu lui-même au travers de l'œuvre de la croix de Jésus. Et toutes les personnes qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus dans leur vie comme sauveur personnel, ce sont des personnes que Dieu a mises à part, que Dieu a sanctifiées. Et donc ce message s'adresse bel et bien à nous aussi qui avons reçu le Seigneur dans notre vie. Alléluia! Maintenant, nous voulons répondre à la question de savoir comment et pourquoi s'exercer à la vie de sainteté. C'est ça même le sommet de notre message, à partir du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous allons nous poser cette question de savoir comment, en tant que disciples authentiques qui vivent dans le contexte du pays, la RDC, et dans sa partie est surtout, alors que nous sommes en train de faire face à une énième agression de la part des ennemis de la paix, nous sommes dans un contexte où les puissances de ce monde ne veulent pas attendre nos cris de détresse, où l'ennemi est en train d'égorger nos frères, nos sœurs, et personne ne parle de cette situation que nous sommes en train de traverser. Je me suis étonné cette semaine, vous qui suivez les médias, vous avez constaté comment dans une émission sur RFI, comment que les chefs des plus grands contingents de ce monde, lorsqu'on était en train de leur interroger sur l'origine, la source d'approvisionnement de rebelles qui déstabilisent notre pays, ils avaient difficile à répondre, alors qu'ils ont même des services appropriés qui ont déjà publié des rapports là-dessus. Et le monde extérieur semble faire abstraction de cette situation et de la souffrance que nous sommes en train de connaître. Les destinataires de l'épître que nous venons de lire, vous comprenez que ce sont des personnes qui vivent à l'étranger, mais ce sont des élus de Dieu selon sa préscience. Et quand nous parlons de la situation d'étrangers ici, ce sont des personnes qui ont connu la persécution dans leur propre pays à cause d'avoir accepté Jésus dans leur vie, à cause d'avoir servi le Seigneur, la cause de Dieu lui-même. Alors ces personnes devraient être soumises à la persécution et par conséquent, elles devraient se retrouver dans l'état de déplacés, des étrangers, des personnes qui sont même à déportation. Et ces personnes ont continué à espérer à Dieu. Et ils vivaient la situation des déplacés de guerre, comme la situation que plusieurs parmi nous, les membres de nos familles, sont en train de connaître ici. Je me rappelle
d'une situation que nous avons connue dans le périphérique de cette ville de Goma. C'est là chez nous, à Bouhene, en 2021, nous avons connu une situation d'atrocité entre le peuple qui vit dans le territoire des Niragong, et facilement on pouvait se retrouver comme état de déplacés au milieu de cette ville. Nous qui habitions le territoire des Niragong, nous nous sommes déplacés de notre milieu habituel vers la ville de Goma. Et c'était difficile pour nous. Parce que quand vous êtes à face de la personne qui est en train de vous maltraiter, de vous faire du mal, mais le Seigneur vous appelle toujours à vivre la sainteté et à rester disciple du Christ. C'est à cette question que nous voulons répondre. Comment, dans un contexte où nous sommes en train d'être persécutés, et bien aimé, la persécution dont je parle ici, c'est une persécution que nous rencontrons sur notre parcours et dans tous les lieux de service, partout où le Seigneur nous a placés. Je sais que tu rencontres une situation de persécution d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'école ou bien dans les milieux professionnels. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à rester saint, à garder la sanctification. Comment vas-tu continuer à te maintenir saint dans la situation que tu présentes? C'est à cette question que nous sommes en train de vouloir répondre. Vous savez que s'exercer, se développer par des pratiques régulières, des actions qui sont inaccomplies. Alors les disciples s'exercent à la vie de sainteté et cela c'est chaque jour. Et nous allons répondre à cette question à la lumière du texte que nous venons de lire dans 1 Pierre. Parce que si vous revenez au verset 13e que nous avons lu, 1 Pierre chapitre 1er, verset 13. La Bible dit, je peux relire le verset 13. C'est pourquoi, ceignez le rein de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes bien-aimés, les disciples authentiques doivent s'y exercer selon ces versets, enseignant les règles de son intellect. Enfin, de la même manière que les anciens ceignaient leur longue robe autour de reins pour le voyage ou pour les combats, les disciples doivent être préparés à tout ordre du maître. Il doit rester sobre de corps et d'âme. Être sobre n'est rien d'autre que d'être modéré. Être modéré ou alors être tempérant dans le boire et dans le manger. Nous sommes dans une situation qui nous trouble, mais l'auteur de ce texte nous dit que les disciples doivent saigner les reins de son attendement. Et quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, au fait, le 14e verset, nous disons que nous devons avoir parmi les armes du compas spirituel, la vérité doit nous caractériser comme ceinture dans les compas spirituels. Et la Bible dit que la cuirasse de la justice, nous devons la porter dans les compas spirituels. Alors ici, la vérité doit nous caractériser dans un contexte où nous sommes en train d'étendre vers la perfection, vers la vie de sainteté. Non seulement la vérité, mais aussi nous devons rester dans un état de sobriété de corps et d'âme. C'est-à-dire, nous devons avoir une certaine modération dans ce que nous vivons et dans ce que nous mangeons. Mais aussi, nous devons nous tenir dans un état d'attente du retour du Christ à toute espérance. Alors, cette espérance ici est basée sur la pleine délivrance qui accompagnera le retour du Christ lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire. Comment et pourquoi nous exercer à la vie de sainteté? La deuxième raison se trouve au verset 14e. Comme des enfants obéissants, Les disciples ne doivent plus se conformer aux convoitises d'autrefois lorsqu'ils vivaient dans la chair. C'est ce que le verset 14 nous dit. Et il faut comprendre ici que Pierre s'adressait aux anciens païens que d'anciens juifs. En fait, ces anciens païens, dans leurs anciennes manières de vivre, ils se livraient facilement aux mensonges. Ils pouvaient se tromper mutuellement comme plusieurs, parce que mentir ne pas est péché. À partir du moment où certains, aujourd'hui, qui pourtant sont membres de nos églises, sont en train d'inventer des concepts dits qui a certainement ce qu'ils appellent des demi-vérités, je pense bien. On peut mentir et paix pour se sauver d'une situation difficile. Ils sont en train vraiment de vouloir couvrir le péché, parce qu'ils estiment qu'il y a de ces péchés-là qui peuvent les sauver. Alors l'apôtre Pierre est en train aussi de souligner qu'il faut se débarrasser des anciennes pratiques. Le soleil, dans leur ancienne nature, pouvait se coucher sur leur colère. Et donc, si tu pouvais offenser une personne, elle pouvait rester en colère et garder la rancune dans son cœur contre toi. Mais pendant plus d'un jour, deux jours, trois jours, ainsi de suite. Alors, l'apôtre Pierre est en train de dire que ce genre qui, autrefois, dérombait, prononçait des paroles grossières, il est en train de les écrire. Et ça, c'est ce que nous trouvons même dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. À 32, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui s'exerce à la vie de sainteté, c'est une personne qui fournit un effort de se débarrasser de toutes ses anciennes pratiques afin de pouvoir ressembler uniquement Christ. Vous fournissez un effort, parce que le verbe qui est utilisé, c'est le verbe s'exercer. S'exercer, c'est un verbe d'action. Ça signifie que vous devez fournir un certain effort. Et vous devez vous efforcer. Vous ne devez pas garder les bras croisés. Le vrai disciple doit s'exercer au quotidien à se débarrasser de toutes ces anciennes pratiques. La troisième raison se trouve au verset 15. Parce que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est la référence même à Lévitique chapitre 11, chapitre 19e. Nous avons dit que Dieu est saint par nature et par définition. Alors, parce qu'il vous a appelé, c'est lui qui vous a sanctifié, il vous recommande d'être saint comme lui-même l'est. La sainteté de Dieu est pour tout homme le plus impérieux motif de devenir saint. Suréfuser serait de s'exclure de la communion avec Dieu, qui par nature ne peut avoir aucun contact avec ce qui est souillé. Et ici, la sainteté ne signifie pas seulement être mis à part ou consacré pour le service de Dieu, mais la sainteté dans ce contexte implique aussi l'idée de la pureté morale. Donc, une personne qui accepte de se garder pure moralement aussi devant le Seigneur, elle est en train de s'exercer à la vie de cette sainteté. Alors, la quatrième raison, la Bible nous montre que pour maintenir l'équilibre physique et spirituel, il faut une certaine prééminence de la piété au détriment de l'exercice corporel. Parce qu'on fait l'exercice physique et il tue la paix des choses. Nous devons éviter d'y consacrer beaucoup plus de temps. On peut oublier même l'essentiel qui est la piété. C'est ce que 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8 dit.
Le vrai disciple doit s'exercer plus à la piété qui est utile non seulement pour la vie présente, mais aussi celle qui est à venir, c'est-à-dire son salut à venir.
Et donc celui-ci doit s'appliquer à la recherche de la paix et de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et cette piété n'est rien d'autre que la dévotion, l'attachement au devoir et aux pratiques de la religion. Et quand nous sommes en train de nous attacher profondément à la méditation de la parole de Dieu, cette dévotion, nous sommes en train de nous exercer à la piété. Je peux même me résumer au sujet de comment nous exercer à la piété. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que ce matin, votre présence en ces lieux témoigne réellement du souci que vous avez de continuer à vous exercer à cette vie de piété. Parce qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui n'ont pas pris ce courage de venir se réunir avec nous ce matin, n'est-ce pas vrai? Pensez-vous qu'elles sont beaucoup plus occupées par rapport à vous autres, vous qui êtes ici? Et quand vous décidez d'abandonner tout, vous venez ici ce matin, ça c'est très bon. Ça fait partie des éléments qui peuvent illustrer pratiquement comment les disciples doivent-ils s'exercer à la vie de piété. Non seulement vous réunir avec les autres, mais quand vous décidez de prendre un programme que vous mettez à part pour votre croissance spirituelle, c'est dans la méditation de la parole de Dieu personnellement, ou bien dans votre cellule, dans votre famille, quand vous décidez de méditer cette parole, quand vous décidez de la mettre en pratique et de ne pas pécher contre Dieu, vous êtes en train de s'exercer et de vous exercer vous-même à la vie de piété. Alléluia. Ce ne sont pas des choses étranges. C'est la vie du disciple de chaque jour, parce que tout disciple, tout chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu n'est pas en train de s'exercer à la vie de piété. Mais j'ai béni Dieu parce que dans cette église, il y a des personnes qui s'y exercent quand même. Alors pourquoi s'exercer à la vie de sainteté? Parce que plus le disciple a la certitude de son salut présent, mais aussi le salut futur, plus il trouve dans cette assurance l'obligation et la force de mener dans toute obéissance une vie sainte chaque jour, et cela dans tous les domaines de la vie. Je suis en train de vouloir expliquer que les disciples authentiques, c'est cette personne qui se sert aussi de la morale. Parce que la définition de la morale nous dit, la morale nous apprend quand même le bien à faire et le mal à éviter, n'est-ce pas vrai? Et donc, quand nous sommes des disciples du Christ, moralement aussi nous connaissons quel est le bien que nous devons faire, les actions que nous devons poser chaque jour, quelles sont les actions que nous ne devons pas poser. Quand vous vous exercez à cela, vous vous y exercez non seulement parce que vous êtes poussé par une force extérieure à vous-même, mais parce que vous vous avez imposé une certaine discipline. Vous dites, je dois mener ma vie pour le Christ qui m'a sauvé. Je dois me garder saint pour lui. Je ne dois pas m'essuyer parce que je suis sanctifié par Dieu lui-même. Et à chaque minute de ta vie, dans tout ce que tu fais, quand on est en train de te faire des propositions qui peuvent t'aider facilement à gagner de l'argent ou à accéder à tel ou tel autre poste, ou bien même accéder au pouvoir. Parce que certaines personnes se disent que tous les coups sont permis pourvu qu'ils atteignent l'essentiel. Mais toi, quand on te propose, après que vous vous ayez séparé de cette réunion où vous étiez, tu vas te dire, est-ce que ce que l'on est en train de me proposer ici va-t-elle m'aider à rester saint pour la gloire de Dieu? Alors là, tu vas prendre une décision de pouvoir t'en échapper. À guise de conclusion, nous abordions le thème du disciple authentique qui doit s'exercer à la vie de sainteté. Il doit, parce qu'il a cette obligation, j'utilise ce verbe parce que je considère que s'exercer à la vie de sainteté, c'est une obligation pour tout disciple authentique. Ce n'est pas une option, bien-aimé. Vous ne pouvez pas dire, je suis disciple, Alors, je peux ou ne pas m'exercer à la vie de sainteté. Amen. Hein? Quand vous êtes disciple authentique, vous êtes obligé, je le répète bien, vous êtes obligé de vous exercer à cette vie de sainteté. Nous avons défini effectivement brièvement la sainteté et nous étions en train de démontrer comment et pourquoi s'y exercer. Et nous avons compris que la sainteté, c'est la vie de sanctification, la vie de consécration, c'est-à-dire la vie de piété. C'est ça la sainteté, mes bien-aimés. S'y exercer se traduit par l'obéissance totale et l'attachement à la mise en pratique de la parole que nous méditons chaque jour individuellement ou collectivement, c'est ce que nous disions. Et là, je vous encourage, bien-aimés, au culte personnel, au culte familial, même au sein de votre groupe de discipolas, parce que nous sommes en train de vouloir introduire ce programme de discipolas. J'ose croire que chacun de vous fait partie des groupes de discipolas dans ce quartier et dans sa cellule. Je vous encourage également à mener une vie de communion et de partage dans vos cellules et services, mais aussi à la vie de témoignage et de partage de l'Évangile avec ceux qui vous entourent. Ne vous lassez pas à vous confier totalement en Dieu dans des moments de prière sous toutes ses formes. Enfin, nous exercer à la piété, nous avons dit que c'est vraiment nous munir de l'armure du Saint-Esprit. C'est donc nous débarrasser de toute ancienne pratique et tout péché qui s'enveloppait facilement à nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, nous devons nous débarrasser de tous ces péchés-là. Nous devons espérer au salut futur lorsque le Christ apparaîtra dans toute sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous tous. Amen.